où on a utilisé les façons ancestrales de faire le chocolat.
Là, beaucoup, beaucoup de chocolatiers aujourd'hui achètent du chocolat qui est fait par des industriels.
Mais c'est uniquement un artisan qui sait travailler la fève et qui veut travailler bien la fève, qui va arriver à garder toutes ces arômes qui sont développés.
Un concert de musique où c'est comme si, finalement, en goûtant une fève, on va goûter un instrument, mais si on va goûter l'ensemble d'une poignée, entre guillemets, on va avoir toute l'harmonie générale de... Allez, ça marche, on va commencer. Donc à chaque fois, on va goûter un seul instrument du concert.
Des références.
Voilà. Ouais, alors, ouais. Je sais pas si vous entendez un micro. Ça veut dire qu'elles sont bien sèches, on les entend craquer. Bienvenue sur Radio Bean to Bar, je suis Benjamin, chocolatier de la fève à la tablette, fondateur de la chocolaterie du Nouveau Monde, et je suis avec Sophia.
Coucou tout le monde, moi je m'appelle Sophia et je suis apprentie dans la chocolaterie du Nouveau Monde. J'ai étudié la physique et mon but c'est apprendre beaucoup sur les chocolats. On fera ce podcast, on vous invite à rester et on parlera sur quoi, Ben?
Et donc notre premier épisode va être sur la philosophie Bean to Bar, un peu l'histoire, notre approche avec le cacao, et puis partager notre passion avec vous voilà, dans une conversation toute simple et ensemble. Voilà.
Bon, j'ai hâte de commencer, c'est parti.
C'est parti pour le premier épisode qui est donc qu'est-ce que le Bean to Bar, Sophia? Dis-moi toi en quelques mots, la première fois que tu en as entendu parler par exemple, comment tu as découvert le Bean to Bar?
Alors je crois que la première fois c'était dans un voyage à Chiapas, et c'est justement la région d'où le chocolat vient, et c'était un petit muséum de chocolat que j'ai arrivé à trouver juste par chance, et je me rappelle très bien que j'ai fait un petit atelier Bean to Bar où on a utilisé les façons ancestrales de faire le chocolat. On a vraiment torréfié dans un gros Paul qu'on appelle Comal, et après on a fait tous les broyages avec une métate, et c'était assez choquant pour moi de voir ces transformations et un goût incroyable. C'est comme ça que je l'ai connu la première fois.
D'accord, t'avais quel âge? Je veux dire, c'est il y a longtemps?
Non, alors je savais que les process existaient, mais ça c'est arrivé il y a peut-être 4 ou 6 ans, j'avais 18 ans peut-être.
Okay, d'accord.
Ouais. Toi, comment est-ce que tu as découvert?
Juste pour rappel, le Bean to Bar, donc ça veut dire de la fève à la tablette. Donc ça veut dire qu'on part des fèves de cacao, et en tant que chocolatier, on va faire toutes les étapes depuis les fèves de cacao jusqu'au chocolat. Et c'est vrai que moi j'ai découvert donc de la fève, le chocolat fait de la fève à la tablette, ou Bean to Bar. C'est un mot qu'on va beaucoup utiliser sur ce podcast. Et donc je l'ai découvert, j'étais à l'époque, c'était en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. J'étais pâtissier ambulant dans l'est de la France, en Franche-Comté. Et j'étais déjà chez Nature et Progrès, qui est un label bio indépendant, enfin qui est bio entre guillemets, on n'a pas le droit de s'appeler comme ça, mais on fait du naturel. Et donc dans une réunion de cette association, il y a un paysan boulanger qui est venu avec du chocolat qu'il avait fait lui-même, et j'avais jamais entendu parler de cette possibilité de faire son propre chocolat, et j'avais jamais goûté donc un chocolat fait artisanalement depuis les fèves de cacao. Et en fait, quand j'ai goûté, j'ai eu une émotion vraiment très forte, c'était le meilleur chocolat que j'avais goûté de toute ma vie. Et j'avais fait des études de pâtisserie, travaillé dans des grandes maisons, plein d'expériences professionnelles avec du chocolat de qualité, mais jamais cette qualité-là. Et en fait, c'était vraiment très, très touchant pour moi. Et comme je suis assez adepte de faire le chocolat, faire tout par moi-même au plus possible à partir d'ingrédients bruts.
J'aimais raconter de ça, ouais.
Voilà, et bon, c'est ça que je le raconte dans une interview autre qu'on a fait ensemble, que vous aurez bientôt accès sur notre chaîne sur n'importe quelle. D'ailleurs, sur quelle plateforme on va être diffusé
YouTube, Spotify, j'espère.
YouTube, Spotify, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, c'est super cool. Et donc, voilà, et comme ça que j'ai découvert. Et après, j'ai mordu à l'hameçon et c'est parti, quoi.
Et maintenant que tu dis sur la question des qualités, je me rappelle que ce chocolat que j'ai goûté, qui était tellement bon, il n'avait pas du tout une texture, comme je dis normalement, européenne. C'était vraiment un broyage à la main, assez naturel, où il avait les gros morceaux encore de sucre, mais moi j'adorais, c'était déjà quelque chose assez souple et gourmande, fondante, mais surtout tous les arômes qui restaient, ouais, à la fin. Et je me rappelle aussi qu'on a choisi la quantité de sucre qu'on voulait rajouter, alors on a parti, je crois, que des 15% de sucre, et déjà j'ai trouvé que c'était pas merde du tout. Et c'était surprenant pour moi, et c'était là que je me dis, mais ça que je connaissais, c'est pas de tout ça que je goûte là.
D'accord. Alors, du coup, on commence par...
La philosophie, alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la philosophie? Parce que, bon, il doit toujours avoir quelqu'un qui fasse la transformation, mais c'est, oui, pourquoi c'est une philosophie, Lindebar?
C'est vrai que je me suis posé cette question. Finalement, tous les chocolats, à un moment donné, ils sont faits à partir de fèves de cacao. Donc, on pourrait se dire que tout le monde est bean to bar, enfin, tous les chocolatiers, puisque à un moment donné, quelqu'un a transformé les fèves en chocolat. Dans la réalité, c'est autrement, puisque beaucoup d'artisans chocolatiers, quasiment l'intégralité, on est quand même peu nombreux, le mouvement grossit, mais beaucoup de chocolatiers aujourd'hui achètent du chocolat qui est fait par des industriels et qui utilisent donc du chocolat déjà fait par quelqu'un d'autre et vont juste le refondre et le retravailler à leur façon. Parfois même juste fondre des pistoles de chocolat, les mouler en tablette et les revendre à leur nom, alors qu'ils ont juste fait du moulage. Et donc voilà. Donc déjà il faut savoir ça, parce qu'il y a beaucoup de nos clients à la chocolaterie du Nouveau Monde qui pensent que chaque chocolatier fait son chocolat. Non, c'est pas vrai. Donc on doit expliquer ce premier point. Et donc on pourrait aussi toujours se dire, un industriel, il fait du bean to bar. Mais dans la réalité, donc c'est pour ça que qu'est-ce qui va distinguer le bean to bar d'un industriel, ça va être plutôt la philosophie, pas forcément le fait de transformer le cacao en chocolat, mais le fait de avec quelle intention et de quelle façon on va le faire. Donc moi, le point limite, on va dire, de différenciation, ça va être l'origine. Je m'explique, c'est assez vaste comme mot, il y a beaucoup de concepts derrière, mais par exemple, en fait, il faut, en fait, pour comprendre le bean to bar, je pense qu'il faut qu'on retourne au producteur et qu'on aille un peu voir de ce côté-là comment c'est organisé, comment ça se passe et à quel moment, en fait, on passe de l'échelle locale, artisanale, à l'échelle industrielle.
C'est ça.
Et c'est cette limite-là qu'on peut essayer de décrypter ensemble aujourd'hui.
Et bon, pour moi, ça fait un point très, très important. Les producteurs, comme tu dis, et justement parce qu'ici, on a une partie très importante dans la qualité d'une fève de cacao, qui ça va être la fermentation. Et qu'on a du chocolat avec un goût très, très amer, très fort. Et bon, surtout en Amérique latine, on rappelle un goût et presque à brûler, très très torréfié. Et c'est important de savoir d'où ça vient. Pourquoi un producteur ferait un chocolat et assez amer et un autre producteur ferait un chocolat avec beaucoup des arômes? Et moi, je trouve que les mots clés, c'est la fermentation. Moi, je suis un fanatique de la fermentation, et pour partir dès qu'un producteur fait quelque chose de très haute qualité, qui va avoir beaucoup des arômes, et il faut faire une bonne fermentation, mais c'est uniquement un artisan qui sait travailler la fève et qui veut travailler bien la fève, qui va arriver à garder tous ces arômes qui sont développés. Parce que qu'est-ce qu'il passe avec la grosse industrie? Le but, c'est d'avoir les mêmes goûts dans les produits finaux, toujours exactement les mêmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, enlever la plupart des arômes qui vont se différencier. Pour moi, ça c'est la base de la philosophie. Qu'on ne cherche pas à avoir un produit toujours pareil. C'est tout le contraire. On cherche de garder toujours les goûts qui viennent de les commencer.
D'accord. Et par rapport au producteur, c'est vrai qu'il y a donc cette idée de fermentation. Ce qu'on peut dire aussi, rappeler aux auditeurs, aux auditrices, c'est que il y a beaucoup, la plupart du cacao aujourd'hui mondialement produit, il n'est pas fermenté ou mal fermenté, un petit peu à la sauvage, on va dire, voilà, à l'arrache. Pourquoi ? Parce que les producteurs n'ont pas forcément les connaissances, les compétences et les outils pour le faire. Les moyens, voilà. Donc ça nécessite des moyens de faire une fermentation de cacao, une belle fermentation de cacao. Il va falloir des outils, il va falloir un savoir-faire, etc. Des conditions techniques qui ne sont pas réunies.
Des essais et des erreurs aussi.
Ouais, et voilà, de l'apprentissage, etc. Donc c'est une forme d'expertise et sur laquelle nous, on dépend. En fait, pour rappeler un petit peu le cacao, si on le goûte frais, donc sans fermentation, en sortant de la cabosse, on est Tu as goûté déjà, j'imagine, non ?
Moi, non, pas encore.
Ah ouais, d'accord.
Et justement, à Mexique, on n'a pas assez accès à cacao frais.
Frais, d'accord.
Et on a beaucoup d'accès à fèves de cacao séchées, mais tu les trouves, par exemple, dans tous les magasins en braque, mais c'est cacao lavé, c'est cacao pas fermenté.
D'accord, et ça a quel goût ?
Et un goût est assez, je ne sais pas si dire planant.
Plat.
Oui, assez plat. Et c'est encore amer, mais c'est pas c'est pas du tout choquant. C'est vraiment comme si c'était un chocolat très très noir industriel. Ça a un goût assez plat.
Et au niveau de l'amertume ou l'astringence, est-ce que tu ressens ça? Non,
je ne ressens pas trop l'astringence, il y a l'amertume quand même. Mais quand on goûte ce type de fèves et déjà fermenté, tu sens très rapidement l'acidité. Tu sens, c'est vraiment comme une punch. Et avec les cacao lavés, on ne sent pas ces punches. Ça commence petit à petit l'amertume.
D'accord. Et donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à la fermentation, c'est que son rôle, on peut en parler maintenant ou...
Oui.
C'est en fait le rôle de la fermentation, il va transformer justement l'amertume naturelle de la graine et l'astringence d'une fève de cacao fraîche. Il va la faire évoluer avec des arômes plus complexes, justement qui vont être précurseurs du goût du chocolat de qualité. Et voilà, donc ça c'est hyper important. Donc voilà, déjà premier élément de différenciation entre du cacao industriel, on va dire tout venant, qu'on appelle d'ailleurs tout venant, il y a un terme anglais, c'est le bulk, donc ça veut vraiment dire du vrac. Qui est pas soigné. Donc ça, c'est premier élément de différenciation. D'un côté, pour l'industrie, le bulk, et puis de l'autre côté, une belle fermentation, la mieux menée possible pour du cacao qui sera destiné à des chocolatiers bean to bar. Ensuite, il y a aussi un autre élément que je voulais mettre en lumière, c'est le mélange des origines. Puisque justement, comme tu le disais, un industriel, lui, son but, ça va vraiment être d'avoir toujours le même goût, alors que nous, on va vouloir préserver l'identité d'un cacao de terroir, qui soit donc d'un producteur ou d'une coopérative, si c'est un ensemble de producteurs autour d'un centre de fermentation, souvent réunis en coopérative. Nous, notre but, ça va être de garder cette identité, pardon, et on pourrait presque parler de millésime, puisque d'une année sur l'autre, les conditions n'ont pas été les mêmes, et donc on a des goûts qui vont être différents d'une année à l'autre, et c'est à nous de l'assumer et de le faire valoir.
Et même là, je trouve très intéressant que même dans un même batch de cacao, tu n'as pas le même goût d'une fève à une autre.
Ah oui,
il va y avoir des fèves qui sont plus fermentées, au moins, ou parfois, les producteurs ont des variétés différentes. Alors, tu trouves des fèves plus gros, plus petits. Et déjà, si c'est plus gros, plus petit, la fermentation, ça va se passer différemment. Alors, déjà, pour goûter du cacao, il faut goûter plusieurs, sinon, ce n'est pas vraiment les goûts qui les produits finaux va avoir.
Oui, c'est ce que j'aime à dire, c'est qu'effectivement, dans un sac de cacao d'un centre de fermentation ou d'une ferme qui fermente elle-même, on a déjà un certain mélange en fait de plein de saveurs, plein de parcours différents, puisque effectivement, comme tu dis, je vais le dire aussi avec mes mots, c'est que dans un lot de fèves, on va avoir plein de fruits différents, enfin des fèves qui proviennent de fruits différents à des stades de maturité différentes, d'arbres arbres différents avec pas forcément la même génétique. Et dans leur parcours de transformation, effectivement, dans la fermentation notamment et dans le séchage, eh ben, ils vont pas vivre la même expérience, donc évoluer différemment au niveau du goût. Donc, ce qui fait qu'on a, on a une, un ensemble de saveurs, et que si on goûte une seule fève de cacao, c'est ce que tu disais, c'est qu'on va, on va pas avoir l'idée générale de ce batch-là, donc on, cette tournée-là. Donc on va devoir, nous en tant que chocolatier, pour comprendre, enfin identifier le goût de notre sac de cacao, ça va de faire un mélange, enfin de faire une petite tournée de test, et puis de voir à la fin le résultat final de toutes ces fèves mélangées dans le chocolat. Donc l'intérêt en plus, c'est qu'on va tout broyer hyper finement, donc ça va bien se mélanger.
C'est
ça. Moi j'imagine un peu comme un concert de musique, où c'est comme si finalement en goûtant une fève, on va goûter un instrument, mais si on va goûter l'ensemble d'une poignée, on, entre guillemets, on va avoir toute l'harmonie générale de tous les instruments en même temps, quoi.
C'est ça, non? Et même quand on considère, ah oui, mais c'est un orchestra avec 50 violons, ah bon, ouais. Mais là toi, un seul.
Ouais, voilà.
Oui, oui, je suis complètement d'accord. Et bon, après, on va voir beaucoup de différences aussi dans les côtés transformateurs. Et déjà, quand on parle de l'artisanal, ça veut dire que chaque personne va mettre une touche personnelle. Et dans la chocolaterie, par exemple, on fait beaucoup de choses, et on va dire selon notre goût, et ça va être choisir la quantité de sucre qu'on met. Il y a des chocolatières qui vont mettre différentes quantités de sucre selon les cacao qui arrivent. Il y a des chocolatières qui vont décider de faire une torréfaction plus haut ou plus bas, et ça va à tout changer, parce que il va avoir beaucoup des arômes qui vont s'enlever, mais il y a d'autres qui vont se garder. Alors c'est déjà un choix très très personnel. Ça veut dire aussi que même si c'est les mêmes origines chez un bean to bar et chez un autre bean to bar, ça va avoir un goût très très différent, parce qu'il y a les touches personnelles dans chaque.
Oui, ça me fait penser à, donc on, avec la chocolaterie du Nouveau Monde, on fait partie de l'association Bean to Bar France. Et donc, on a une charte de valeurs qui est, vous pouvez aller voir sur le site, donc, vous tapez sur un moteur de recherche Bean to Bar France, vous aurez des informations et des connexions aussi avec tous les chocolatiers. Si vous voulez voir s'il y en a un près de chez vous, ça peut être intéressant d'aller vivre l'expérience.
Et juste avant que tu commences, c'est un mouvement très, très intéressant, parce que c'est un mouvement qui a commencé avec juste 28 membres. Et maintenant, c'est plus de 70 et moins de 4 ans.
Excuse-moi, ouais, c'est, en fait, c'est, je t'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on a préparé l'épisode, mais en fait, aujourd'hui, on est à peu près une trentaine de membres.
Okay.
Et après, 70, c'est peut-être
les transformateurs
les bean to bar en France en général. Tout le monde n'est pas dans l'association, mais aujourd'hui, on est une trentaine à peu près dans l'association. Mais ils ont commencé beaucoup moins nombreux, hein, et je connais pas les chiffres exacts, mais ils devaient être moins de 10 membres. Et donc, voilà, on est un mouvement qui grossit, parce qu'il y a un vrai intérêt de la part des gens. Et donc, voilà, de toute façon, on en parlera tout au long des épisodes. Pour revenir sur l'expérience que je voulais partager, sur ce que tu disais sur la typicité de chaque chocolatier bean-to-bar, c'est qu'on a, on fait chaque année, on se retrouve avec toutes les membres de l'association, et en fait, ce qu'on fait, un jeu, c'est que les organisateurs de la rencontre vont envoyer au préalable un sac de cacao qui est la même origine pour chacun. C'est la fève mystère, on sait pas ce que c'est comme cacao, c'est une surprise. Et en fait, chacun doit faire un chocolat noir 75%, et il l'avait fait à sa façon. Et après, on fait un jeu, quand on se retrouve tous, de goûter tous les chocolats 75%. Donc on a une trentaine de carrés de chocolat à s'enfiler.
C'est trop bien.
Et chaque carré a un goût différent, quoi. Et une texture différente. C'est incroyable.
Wow.
Et donc ça montre que, en fait, chaque chocolatier bean to bar, il va avoir sa propre identité.
Mm-hmm.
Et donc c'est ça qui est intéressant, en fait, quand vous allez pouvoir goûter un chocolat bean to bar, c'est que, en fait, vous aurez quelque chose d'unique, qui est propre au chocolatier, même si au départ il a la même fève que quelqu'un d'autre.
Et même quantité de sucre dans ces cas-là.
Et oui, après, ça dépend du quel sucre. Voilà, ça, il y a différents sucres.
Oui, c'est ça.
Il y en a qui rajoutent du beurre de cacao, d'autres qui ne vont pas en rajouter. Et pareil, le beurre aussi. En fait, chaque ingrédient qu'on va ajouter, il est différent selon chacun. Mais voilà, déjà en partant de ça, c'est quand même impressionnant. Et voilà.
Et bon, déjà, maintenant qu'on parle des les bean to bar France, j'aimerais qu'on parle aussi avec des, les principes que ces mouvements suivent, parce que c'est très intéressant, par exemple, le fait que l'idée, c'est d'avoir uniquement les ingrédients qui sont nécessaires pour avoir du chocolat. Alors déjà, ici à la chocolaterie, mais en général pour être partie du mouvement Bean to Bar, on ne peut pas utiliser la lécithine de soya. Et ce type d'idée de préserver les chocolats de la façon plus naturelle possible, c'est quelque chose qui à moi m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet vraiment d'avoir un chocolat qui est une texture de chocolat et pas une texture, on va dire, fait d'une façon plus industrielle pour arriver à supporter toute la météo qui se fait très suivante. Par exemple, à Mexique, qui c'est un pays très chaud, c'est très très difficile de trouver des chocolats sans lécithine de soya pour la même raison. Et même, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques et c'est difficile de pouvoir manger du chocolat quand on est allergique. Et il y a aussi les côtés sociaux que je trouve génial, qui l'idée c'est d'avoir une proximité avec les producteurs et de payer de façon éthique le cacao. Ça c'est un très très gros problème maintenant et j'espère qu'on va parler aussi de ça dans un autre épisode parce que on parle beaucoup des côtés artisanaux dans la transformation, mais la récolte de la cabosse de cacao, c'est un travail très très artisanal aussi, ça doit se faire à la main et c'est rarement bien rémunéré. Alors c'est un très joli mouvement les Bean to Bar parce que l'idée c'est aussi que ces gens-là qui commencent tous les voyages du chocolat, c'est un travail complètement artisanal où une personne doit ouvrir chaque cabosse avec une machette à la main tous les jours pendant quelques semaines. Ouais. Alors ça c'est une valeur très importante, surtout quand on sait que c'est une industrie où il y a beaucoup d'enfants qui sont employés pour faire ce type de travail. C'est bien d'avoir ce type de chocolaterie qui... On essaye de faire un peu...
Les retours que j'ai sur justement le côté producteur, c'est que en fait, par rapport à l'histoire, ça nous amène un petit peu à l'histoire du Bean to Bar. Mm-hmm. Je vais commencer par l'histoire, puis je vais à la fin revenir à ton sujet qui m'a donné des idées. L'histoire moderne du Bean to Bar, elle commence aux États-Unis. Il y a à peu près maintenant 25-30 ans, on va dire, ça a gentiment commencé. Bon, après, excusez-moi, je fais avec mes propres connaissances, il y a probablement tout n'est pas forcément vérité, mais voilà, c'est mon interprétation aujourd'hui. Ça a commencé il y a à peu près une trentaine d'années aux États-Unis. Alors moi, ma lecture par rapport aux États-Unis, c'est que comparativement à la France, nous, on a un peu une tradition de petits chocolatiers, de villes, etc., voire de quartiers pour des grandes villes, etc. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'est tout de suite l'industrie, en fait. Ils n'ont pas cette culture de l'artisanat chocolatier, même si nous, on s'est fait un peu avoir, entre guillemets, avec... beaucoup de facilitations industrielles. Mais aux États-Unis, c'est vraiment directement la grosse industrie. Ils n'ont pas eu forcément accès à de la qualité et à cette proximité de l'artisan. Il y a un mouvement de pionniers du Bean to Bar, des personnes qui se sont dit, tiens, comment on pourrait faire pour reprendre la main sur la fabrication du chocolat à échelle artisanale. Et ils ont commencé à se mettre en lien avec des producteurs pour chercher des très bons produits et puis avoir aussi de l'éthique auprès des producteurs, avoir une qualité humaine. Et puis aussi au niveau machine, parce qu'il y avait tout à repenser, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je pensais que c'était impossible de faire du chocolat, c'est que les machines, elles sont industrielles, elles sont énormes.
Et chères.
Et voilà, inaccessibles en tant qu'artisan, quoi. Donc, il y a eu tout ce travail-là de comment créer des machines qui permettent de faire des petites quantités de chocolat. Et donc ils ont trouvé des solutions, notamment avec les broyeurs à pierre. Alors, on n'a pas vraiment de nom en français. En anglais, ils vont appeler ça un mélangeur, mais j'appelle ça un moulin, une meule de pierre. Oui. C'est vrai que ça ressemble vraiment à un moulin à pierre, donc je trouve que c'est
automatisé, mais c'est les mêmes principes.
Ouais, voilà, donc des broyages par par écrasement, pierre contre pierre. Voilà, il y a différents termes en français, c'est vrai que c'est pas évident, mais là où je veux en venir, donc il y a cette technique là qui a été trouvée pour avoir des petites machines, donc c'est inspiré de machines qui étaient utilisées en Inde pour faire d'autres produits indiens, et donc j'ai bien aimé cette idée de détournement. D'ailleurs Bhavani, on garde une petite surprise, mais on aura une histoire, une anecdote dans un épisode sur ce sujet. Et donc voilà, et progressivement en fait il s'est construit des machines faites maison au départ, et puis après il y a des petites entreprises qui se sont créées pour faire des petites séries autour, voilà, inspirées de des fabrications maison, et aujourd'hui il y a vraiment une filière de machines qui est en train de se développer. Où nous on a accès en tant que chocolatier beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans à des machines pour faire notre propre chocolat.
Et ça parle beaucoup aussi de la demande de gens qui vendent les chocolats qui est transformé d'une façon plus artisanale, parce que déjà ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas beaucoup de chocolat ou beaucoup de goût au chocolat ou d'autres problèmes. Mais moi je trouve incroyable la quantité de clients qui décrit quand ils viennent ici et qui décrit comment ils n'avaient pas encore goûté un chocolat avec ce type de goût. Et que c'était notre expérience il y a 5 ans, mais il y a encore une grosse partie de gens qui ne les connaît pas. Moi, j'ai pas mangé une fève de cacao frais, mais ici en France, il y a beaucoup de monde, je crois que partout, qui n'ont pas goûté une fève de cacao séchée non plus. Et c'est quelque chose assez accessible qu'on trouve déjà dans quelques petits magasins bio, mais c'est assez rare que les gens ne les connaissent pas encore le vrai goût du cacao. Et déjà, que beaucoup de produits sont tellement transformés, la quantité de sucre, que quand on mange un cacao d'origine, ça te marque. Ouais.
Et puis, à ce sujet, moi, je vois dans les clients, soit des gens n'ont pas goûté, ou beaucoup qui ont goûté, soit en voyage sur des plantations, enfin voilà, des lieux comme ça, donc avec des fèves fraîches, donc avec une expérience très amère, astringente du fait que ça soit une fève fraîche et pas forcément fermentée, parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux plutôt où il y a du tourisme autour du cacao, il n'y a pas forcément non plus la compétence et la connaissance de la fermentation.
Non.
Et donc les gens goûtent du cacao qui est pas non plus optimal en termes de dégustation, et on a soit des gens qui ont pas goûté ou des gens qui ont goûté un cacao pas forcément exceptionnel, et donc là de pouvoir proposer l'expérience de fèves fermentées, ça change vraiment l'expérience, et c'est chouette de pouvoir partager ça avec les clients, quoi.
Oui c'est vrai. Et j'ai trouvé une petite histoire, je ne sais pas du tout si c'est vrai, c'était dans un blog français, mais j'ai trouvé très intéressante. Et ce blog parlait d'un artisan chocolatier dans les années 1950 et quelques qui a fait un an à l'étranger dans les États-Unis. Et c'était là qu'il s'est raconté que les chocolats, c'était vraiment industrialisé, qu'il n'y avait pas beaucoup de goût au chocolat. Mais lui, chez où il travaillait en France dans les années 1940, il faisait toute la transformation. Alors c'était lui dans les États-Unis qui a commencé les mouvements pour dire, bon, si on a du cacao assez proche, on peut commencer à faire la transformation nous-mêmes. C'était vraiment une histoire que je trouve très intéressante, parce que c'est vraiment dans l'Europe et surtout la France qui a donné à connaître les cacaos transformés et sucrés au monde. Et encore, ils ont gardé cette tradition d'un chocolat assez haut qualité pendant 300 ans. Pendant que dans les États-Unis, Mexique, on a beaucoup perdu cette tradition, même si on a les cacao qui sont cultivés là-bas. Bon, en Mexique, Latin-Amérique.
Mais tu me dis si je me trompe, mais au départ, les peuples indigènes qui cultivaient le cacao ou récoltaient le cacao sauvage en premier, ils fermentaient. Il y a une tradition de fermentation et qui s'est perdue, en fait, si je comprends bien, avec l'industrialisation.
Exactement.
Et qu'aujourd'hui, avec laquelle on se reconnecte à plus grande échelle, Mais c'est quelque chose, c'est une pratique ancestrale qui permet la conservation à la fois des fèves et puis de l'amélioration du goût. Et donc voilà, c'est assez intéressant ce parcours collectif de
retourner voilà. un peu vers ça voilà. qu'on connaissait déjà.
Voilà,
parce
c'est ça.
Que c'est vrai, ça s'est fait c'est déjà. C'était les Olmecs qui ont commencé la domestication, mais aussi dans les années un peu tardives de son époque, la fermentation du cacao. Et c'est des connaissances qu'ils ont arrivé à garder pendant 2000 ans et après on a perdu.
Ouais.
Et c'est incroyable comment on l'a perdu assez rapidement et que ça prend un gros effort de les récupérer, mais ouais. on est en train de les faire et ça c'est pas facile mais génial.
Et, donc, ouais. et pour continuer cette histoire autour du cacao, donc ce que j'ai comme information de la part de Dylan de Manoa Chocolate à Hawaï, mm-hmm, qui a une mm-hmm. chaîne YouTube, d'ailleurs je vous recommande, qui est en anglais, mais qui s'appelle Craft Chocolate TV. Je me suis pas mal formé grâce à ses vidéos. Et il expliquait que en fait, donc il y a beaucoup de producteurs de cacao qui ont été intéressés par le mouvement Bean to Bar, mm-hmm. et qui ont voulu jouer le jeu de la qualité et donc se mettre Exactement. À se former à la fermentation, au séchage, etc. pour améliorer la qualité de leur cacao en contrepartie d'une meilleure rémunération pour ce travail supplémentaire effectué. Donc ce qui est valeureux en Exactement. Soi, qui donne de la valeur à la production et qui leur permet d'avoir plus de revenus. On fera probablement un sujet là-dessus.
Oui. Oui, évidemment.
Et la problématique qu'on a aujourd'hui, ce qu'il expliquait, c'est que donc il y a donc du volume de cacao de qualité qui est aujourd'hui fourni,
mm-hmm.
voilà, qui a augmenté. Et en face, on n'a pas suffisamment en fait de chocolatiers transformateurs de ce cacao là de qualité à juste rémunération.
Exactement.
Et on n'a pas, parce que aussi on n'a pas assez de clients qui vont consommer ce cacao de qualité, quoi.
Mm-hmm.
Donc il y a un vrai si on veut que ça fonctionne et si on ait un développement de toute la filière Bean to Bar qui soit donc qualitative et éthique, et ben il faut que tout le monde puisse s'impliquer dans ce jeu là de consommer, etc. quoi.
Et je vais vous faire un peu de comment ça se dit, je vais vous insister avec ces phrases que tu as dit à prix juste, parce que on écoute beaucoup dans toutes les nouvelles et il y a moins de cacao, le cacao est très cher, le cacao est plus cher, et c'est vrai, et le cacao il est menacé par le changement climatique et il y a beaucoup de défis dans la production de cacao, mais il y a une production de cacao de qualité assez haut. La question c'est, est-ce que les gens sont prêts à payer un prix juste? Ça ne veut pas nécessairement dire cher, mais c'est un travail assez artisanal, et ça qui est en manque dans ce moment, c'est le cacao à un prix très très bas qui était vendu pendant beaucoup d'années. Alors maintenant, ça c'est, je trouve, un gros côté de les Bean to Bar, et dans ce cas de les Bean to Bar France, mais les Bean to Bar en général, de travailler des prix justes, surtout pour les producteurs, parce que c'est lui qui va faire toute la matière première.
Ouais.
Et bon, je crois...
On a fait un joli tour
oui.
d'horizon. Alors là aussi, quand même, pour présenter, j'ai amené, donc, pour illustrer notre propos, en fait, j'ai amené donc, trois fèves différentes qui sont fermentées, séchées. Donc je te les présente. Là, on va avoir donc deux fèves du Guatemala, enfin deux origines du Guatemala. Donc pour montrer à quel point ça peut être différent. Hein, donc ce qui est génial, c'est qu'on reconnecte à la diversité des cacaos. C'est comme les raisins, les variétés, enfin les cépages, les variétés de pommes. Bah voilà, dans le cacao, il y a aussi de la diversité. Donc là, on la voit vraiment s'exprimer. Puis aussi, un processus de fermentation qui est souvent avec des levures naturelles présentes sur place. Donc à chaque fois, on va avoir des aromatiques différentes selon chaque lieu de fermentation. Et donc là, on va avoir des fèves qui ont été sourcées par Silva Cacao et qui sont donc de la ferme Santa Ana Maria au Guatemala. Et puis ici, c'est des fèves qui ont été sourcées par Eticable, et qui viennent d'une coopérative, j'ai oublié le nom, avec qui ils travaillent au Guatemala, qui est relativement grosse. Donc là, c'est une assez grosse coopérative qui réunit beaucoup de familles.
Okay.
Et donc voilà, on a vraiment deux fèves différentes. Et puis la dernière, c'est du Costa Rica. Donc là, c'est un projet en direct avec qui on travaille, depuis peu de temps et qui est un très beau projet donc qui vient de la communauté Bribri au sud-ouest sud-est pardon du Costa Rica sur la pas loin de la côte des Caraïbes, voilà. est-ce que tu veux goûter une des fèves ou on s'en goûte plusieurs?
Ouais, moi, je crois qu'on goûte tous.
On goûte tout, allez, ça marche. Bon, on va commencer. Donc, à chaque fois, on va goûter un seul instrument du concert.
Des références.
Voilà. Ouais, alors, je ne sais pas si vous l'entendrez au micro, mais ça veut dire qu'elles sont bien sèches. On les entend craquer malgré qu'elles soient crues. Donc, alors, pour déguster une fève de cacao fermentée séchée, on peut, si on y arrive à on peut la dépelliculer, donc enlever la petite peau autour, mais on peut aussi la manger entière avec l'écorce. Hein, c'est juste des fibres en plus, quoi.
C'est ça. J'arrive pas, alors je les mange comme ça. Déjà, on sent beaucoup d'arômes.
Ah, moi, j'ai un très beau cacao là qui s'exprime.
Moi, je voudrais les grignoteurs comme ça.
C'est ce qu'il y a de meilleur hein, pour la santé. C'est vraiment de manger des fèves crues, fermentées, séchées. On garde tous les nutriments du cacao. Alors, il y a toujours un petit risque, c'est du cru. Hein, donc, il peut y avoir, je ne sais pas quelle bactérie, mais c'est possible. Mais bon, justement, là, une belle fermentation, elle va quand même, dans la majeure partie des cas, finalement, conserver convenablement les fèves, donc ça diminue les risques.
Mais
et à longueur. Hein.
Mais déjà, ce n'est pas très astringent. Parfois, on goûte des fèves qui, l'astringence, cache beaucoup les arômes. Et c'est lui, je le sens.
J'ai pas d'acidité non plus.
Non.
Moi j'ai un bon goût de chocolat hyper long, hyper présent.
Oui, ça continue, ça reste.
Ouais. Ah ouais, c'est bluffant, très très bon.
On essaie l'autre. Allez. Guatemala.
Donc pas du tout la même profil physique hein, déjà, elles sont plus charnues.
Plus gros.
Plus grosses, ouais, plus claires aussi au niveau de la fermentation, du séchage. Alors c'est parti. Pareil, hein, c'est plus super bien moi.
Mais j'y arrive, hein, pour moi, elle est plus chère.
T'as pas de chance.
Non. Pas du tout, hein. On sent un peu plus d'astringence.
Moi, j'ai quelque chose de beaucoup moins puissant. Beaucoup plus doux et qui monte progressivement des notes plus subtiles comme des fleurs. C'est moins,
oui, c'est
moins
frais.
Puissant. Ouais, voilà. Avec un final qui tire vers des épices là, très chaleureuse. C'est difficile à décrire parce que, alors autant en France on a une culture du vin, on a beaucoup de termes pour le vin. Mais
il
le cacao,
faut commencer à trouver des...
On explore, hein. C'est vrai que j'ai encore pas mal de difficultés à vraiment mettre des mots.
Oui, moi aussi.
Mais c'est le feu d'artifice dans les papilles, là.
On va les travailler.
Ouais. On fera un atelier en ligne.
Ça
dégustation
bien,
de cacao. Waouh, mais toujours cette longueur, hein. C'est hyper agréable. Enfin, moi, je prends un plaisir, là, c'est... Si tu regardes, j'en ai cassé une de Costa Rica.
Ah, trop bien.
Ah, bien Costa Rica, c'est génial. Là, j'ai rencontré quand même le responsable de la fermentation. Il est venu me livrer les fèves de cacao à Najac.
Mais non.
Ah, c'est véridique.
Et j'étais où, là?
C'était un week-end. Donc, t'étais en congé. Et on a passé on fait une rencontre incroyable, quoi.
Mais non.
Et voilà, c'est un partenariat qu'on va. Bah, j'espère un jour on aille les rencontrer, hein, c'est le but.
Bon, on fera une petite interview, j'espère.
Ouais.
La prochaine fois qu'il vient livrer des fèves de cacao, personnellement.
Bon, c'est le moment relax. On prend notre temps.
C'est détendre.
Bah, pour le coup, moi j'ai un peu d'astringence. plus que les deux autres.
Je trouve encore assez légère. Je trouve que c'est long quand même, ça dure longtemps, l'astringence, mais pas très acide.
Ouais. Ah mais non, y a pas, sur les trois, il n'y a pas d'acide. Je t'avouerai que je ne suis pas trop trop fan des cacaos acides.
Mm-hmm.
Bon, en sachant que aussi dans le processus de transformation, comme on en parlera, mais la torréfaction, bah, on enlève de l'acidité, le conchage aussi. Donc ça peut se rectifier partiellement. Mm-hmm. Mais j'aime plutôt, voilà, ça c'est trois cacaos qui me conviennent très très bien,
mm-hmm.
Avec beaucoup de profondeur, un goût presque, enfin ouais, chocolat qui est déjà là en fait. Hein. Et mais en même temps avec des, enfin les trois sont très très différents. C'est bluffant, quoi.
Et c'est intéressant parce que pour moi, comme fève, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les Guatemala. Mais j'ai déjà goûté le chocolat final de les deux. Et le chocolat final, je crois que je préfère les Costa Rica.
Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on va apprécier une fève que le chocolat final va finalement
être mieux au pire.
Ouais, c'est ça. Et ça peut être différent. En fait, ça devient différent parce que voilà, toutes ces étapes de transformation qu'on vous présentera prochainement,
mm-hmm.
Vraiment influencent sur le goût. Et je te rejoins sur le fait que les premières qu'on a goûtées là du Guatemala, elles sont hyper bonnes là.
Oui,
mais
je voudrais vraiment les manger juste comme ça.
Voilà, donc ça c'était une petite illustration de la diversité des cacaos.
C'est trop bien.
Et donc de la philosophie Bean to Bar, et puis on reviendra sur tous ces sujets au fur et à mesure des différents échanges. Merci Sophia.
Merci à toi Ben, et à bientôt.
Merci à vous tous, et puis à bientôt pour le prochain épisode de Radio Bean to Bar. Ciao.
Au revoir.